Bonsoir Mathilde. Alors ce soir, impossible de ne pas parler culture pour ce JRA, mais impossible aussi de remplacer Sarah et Léa, et loin de nous cette idée. Alors Arthur et moi avons décidé de vous parler culture, mais pas que.
J'ai la sensation de mettre quand même... tu vois, c'est comme prendre le pantalon de quelqu'un d'autre, mais bon... Comment ça, pas que ?
Non. Ce soir, on vous propose de lier culture avec la politique et les sciences sociales, si c'est possible, tout en vous donnant de très bonnes idées de lecture et de sortie, c'est promis. Alors Arthur, je crois que tu veux nous parler d'un film phénomène qui dépasse Titanic au box-office et qu'on compare même, attention, ça va en faire grimacer certains, au temps retrouvé de Proust.
Et oui, je vais abaisser le niveau du journal de la culture en parlant du film le plus pognon de toute l'histoire du cinéma actuellement. Je veux parler bien sûr d'Avengers Endgame. Mais je ne vais pas parler du film lui-même, dont chacun peut avoir son appréciation. Non, j'ai envie de m'intéresser à la réception qui, en plus en France, est particulièrement drôle. Parce que les critiques ont crisé. C'est tout ce que reporte Frédéric Martel dans son article sur France Culture. C'est que... Personne ne sait comment prendre cet Avengers par le bon bout, si ce n'est quelques bons blogueurs ou quelques vidéastes. Et on ne sait pas si ça vient du fait que ce soit des adultes qui écrivent des chroniques, des adultes qui n'ont pas forcément les codes pour essayer de comprendre ou qui n'ont pas suivi tout le Marvel Cinematic Universe, ou si tout simplement il n'y a pas aussi un peu d'anti-américanisme derrière. Mais derrière cette réception, et là des réceptions un peu plus critiques et avisées, il y a une sorte d'inquiétude derrière. Avengers était très satisfaisant. Mais lorsqu'on sait que le prochain film du MCU arrive dans 2 mois, propose une nouvelle intrigue, et qu'ils ont un planning prévu jusqu'à 2028, on commence à se poser une question, parce que à chaque fois on parle d'un univers étendu qui serait comparable à celui de Proust, à celui de Balzac. Mais en fait, mais Marie, on serait bien plus proche, tout simplement de l'évolution des comics. Les comics de Marvel qui sont à mi-chemin entre le périodique, à savoir qu'on revient toujours à une situation et donc il faut avoir des archétypes, un peu comme dans Friends, mais aussi le sériel, c'est-à-dire que tout simplement il faut avoir des sagas, il faut avoir au moins quelque chose qui pousse le lecteur à l'acheter. Le seul problème, c'est que quand ça dure depuis 60 ans, il y a des problèmes pour relancer les enjeux dramatiques et Endgame, on a la sensation tout de même que par le voyage dans le temps, commence à rentrer dans les pires travers des comics, à savoir l'univers multiple et les diverses intrigues qui ne savent plus comment captiver le spectateur.
Alors bon, je crois qu'on a compris avec toi, Arthur, que la culture, c'était aussi de beaux débats, un peu de surprise et un combat entre la culture populaire et le reste, et un petit peu aussi contre l'Amérique. Je vous propose maintenant de lier culture et politique pour un petit tour d'horizon de l'actualité culturelle.
Mais comment ça, culturelle ? Mais parce que là, le seul truc, c'est que c'est la politique qui s'est quand même invitée à Versailles et à la Biennale d'architecture.
Alors oui, c'est ça, la Biennale d'architecture et de paysage de Versailles, c'est 6 expositions et un ensemble de conférences, de films et d'ateliers. Et si la programmation s'apparente plus à un patchwork peu cohérent qu'à un programme bien ficelé, la Biennale a le mérite de mettre l'accent sur les défis climatiques et de marier habilement architecture classique et propositions contemporaines.
Mais... pourquoi on irait à Versailles pour voir ça alors ?
Eh bien, parce que plusieurs choses vous attendent. Déjà, au château, commençons par le plus attendu, vous découvrirez une sélection de projets d'architecture brillants et intrigants qui ne se sont pourtant pas concrétisés. Au Potager du Roi, une exposition a pour ambition de mettre en valeur le monde paysan et sa culture en donnant la parole à 25 agriculteurs franciliens. Et dans la Galerie des Moulages, vous pourrez admirer l'une des plus belles réserves de sculptures du château de Versailles et du Louvre. Plus original et pour finir, vous pourrez admirer Augure, véritable condensé de propositions architecturales modernes et étonnantes.
Mais quand t'es un gros barbare comme moi, là je me pose action, elle est où la politique dans tout ça ?
Alors, ça vient. Derrière cette biennale inédite, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, ne cache pas sa volonté de promouvoir le projet du Grand Paris. Cette première biennale d'architecture et de paysage, je cite, est un événement majeur pour la région qui mène une politique volontariste en matière d'aménagement et du territoire et d'urbanisme. Ah oui, j'avais oublié ce détail, dans l'ancienne poste, l'exposition Horizon 2030 concentre des maquettes des futures gares du Grand Paris Express. La présidente de région a d'ailleurs aussi profité de l'occasion pour mettre en valeur une politique concrète en annonçant la création de grands prix régionaux de l'architecture dans le domaine du logement, des équipements publics ou de l'éco-construction. Et d'ailleurs, savez-vous qui a inauguré cet événement ? Un architecte ? Non, pas de paysagiste non plus, mais bien un ancien président. C'est en effet Nicolas Sarkozy qui a ouvert les festivités par un discours, ou une succession de phrases choc, je ne sais pas, j'hésite encore, qui a parlé de tout, sauf du programme des expositions, et dont on peut retenir 2 choses. D'abord, l'ancien président a dénoncé une forme de disparition de l'Occident. L'axe du monde, je cite, était occidental, ce n'est pas être décliniste que de dire qu'il est aujourd'hui oriental. Un déclin que le président a justifié par le fait que si une société vivante construit et bâtit, en France, au contraire, les associations de riverains ou d'écologistes entravent les grands projets d'infrastructure et empêchent les constructions nouvelles. Et Sarkozy d'évoquer ensuite, dans un deuxième temps, un projet de Grand Paris qu'il a défendu avec une ferveur évidente. Le projet va rapporter de l'argent, nous dit-on, car il sera témoignage de l'ambition et de la croissance française. Et le président doit casser les résistances et entraîner derrière lui pour mettre en œuvre ce projet, nous dit Sarkozy.
Ça me donne envie d'écouter un petit florilège, tout ça.
Alors, il y avait une très bonne imitation, il y avait beaucoup à dire, mais je crois que les deux phrases suivantes sont assez représentatives. Numéro 1. Je ne peux pas me résoudre à voir partout des grues, des chantiers, des métros fantastiques, des musées, et on me dit qu'ici on a renoncé parce qu'il y avait le crapaud à dos doré. Et numéro 2, c'est très malin, mais vous croyez que Louis XIV, pour faire Versailles, il avait de l'argent? Et le château, il est amorti depuis? Ça me fait plaisir de voir qu'il y a une dame là, au deuxième rang. Elle a réfléchi, et elle a compris. Je cite, hein, c'est...
Bon, on va passer à quelque chose de plus fun, et je crois qu'actuellement, quand même, un événement culturel tout aussi pognon se prépare. La chose dont tout le monde parle sur les réseaux sociaux, même malgré le fait que ça soit pas très bon, la 8e saison de Game of Thrones.
Alors, quand on parle de GOT, on peut parler d'absolument tout, et vous vous doutez bien du coup qu'on peut aussi parler de politique, et les médias s'en donnent à cœur joie. Alors tenez par exemple, les journalistes du Monde nous proposent cette semaine de traiter la fin de Game of Thrones comme une élection. Et si la saison 8 de GOT était une présidentielle, quels seraient les candidats pour le premier tour?
Et la réponse?
Alors des candidats nombreux qui s'affrontent dans l'ombre à coups d'alliances officieuses et de négociations habiles. Arya Stark, la Nicolas Hulot de Westeros. Cersei Lannister, actuelle détentrice du trône, qui prend un malin plaisir à traiter ses opposants comme Mitterrand traitait Chirac en 1988. Indifférence, puis assurance. Bon, la différence, c'est que pour elle, le concept d'assassinat politique est à prendre au pied de la lettre. Jaime Lannister, la Manuel Valls de Westeros, dont personne ne parvient à déterminer le parti politique et qui a fait des volte-face sa spécialité. Et ensuite, Tyrion Lannister, le Jacques Attali de Westeros, qui est conseiller de presque tous les dirigeants. Et enfin, et j'en passe bien sûr, Sansa Stark, qui pourrait avoir divulgué le contenu d'un document secret défense pour mettre en difficulté ses adversaires. Bref, la démarche fait sourire, mais GOT, c'est aussi une série philosophique qui pose de vraies questions. Marianne Chaillon, professeure de philo, a d'ailleurs écrit un ouvrage de titre évocateur, Game of Thrones, une métaphysique des meurtres, et elle décrit la série comme une dissertation géante de philosophie politique dans laquelle chaque personnage incarne la mise à l'épreuve d'une vision de la souveraineté. Le médiéviste William Blanc écrit, lui, que la série nous plonge dans un univers qui a beaucoup à voir avec la tragédie des rois capétiens, Le nom de la rose d'Umberto Eco, ou les sombres manigances de la papauté et de l'inquisition. L'affrontement entre les familles Stark et Lannister ferait d'ailleurs penser aux Capétiens et aux Plantagenets pendant la guerre de Cent Ans et à Henri IV dont la mort a provoqué la guerre des Deux Roses. Bref, de Machiavel à Hobbes, du Moyen-Âge à l'histoire récente, les références sont multiples.
Surtout que face à Game of Thrones, c'est des questions plus générales qui sont évoquées. Par exemple, lorsque, et George R. R. Martin l'a avoué, lorsque on parle des marcheurs blancs, le grand hiver qui approche, en fait, c'est toute réponse humaine par rapport à une forme de transcendance, d'événements qui dépassent, qu'ils souhaitaient mettre en avant. Et ce qu'ils souhaitent parfaitement mettre en avant, c'est que même face à un événement qui est complètement renversant, l'humanité continue à se massacrer, l'humanité continue à faire attention à son petit présent. Et je trouve que c'est quand même d'une actualité qui est quand même assez désarmante.
Alors oui, on voit donc du coup qu'on a du grain à moudre maintenant, et je crois que quand vous regarderez un nouvel épisode de la série, vous pourrez dire, pour ne pas vous sentir coupable, que vous étudiez sérieusement les relations internationales et la tragédie des biens communs et du réchauffement climatique.
Oui, et si je vous dis qu'il y a une série à ne pas manquer, et à voir absolument, et à suivre sans hésiter, vous allez me dire, tu vas me dire quoi Marie, qu'il s'agit de...
Qu'il s'agit de
Wire.
Watchmen.
Ok, non, alors rien de tout ça, mais une série qui elle aussi parle de politique et de notre monde actuel. Elle s'appelle Tchernobyl, et signée Craig Mazin, produite par HBO et diffusée sur OCS City, et elle revient sur l'accident nucléaire qui marquera l'histoire. L'ambiance est glaçante, l'atmosphère glauque, la musique angoissante et le sujet traité sans détour. En nous plongeant dans un URSS au bord du gouffre, le réalisateur nous donne aussi à voir comment le déni des hauts responsables de la centrale touche les instances dirigeantes du pays, prêtes à tout pour protéger le régime, quitte à livrer de fausses informations qui feront de nombreux morts. Un récit intelligent, minutieux et terrifiant qui évite pathos et sensationnalisme et qui aborde sans détour le déni de la réalité scientifique et la puissance destructrice de la propagande. Tchernobyl ne parle pas des dangers du nucléaire, explique le réalisateur, mais des mensonges et du danger de l'aveuglement. Une série qu'on vous conseille chaleureusement.
Celle qu'on vous conseille moins en revanche, c'est l'Éden de Dominique Molly, diffusée sur Arte qui traite le sujet de la crise migratoire en croisant de manière intéressante les parcours de plusieurs groupes d'individus. Mais il ne parvient pas à éviter en tout cas une certaine caricature et l'archétype lorsqu'elle nous donne à voir une gérante de camp privé, de migrants obnubilés par le profit et dénués de toute humanité, ou un fils allemand qui rejette en bloc le réfugié syrien que sa famille décide d'accueillir et est à lui seul un concentré de tous les clichés sur la religion musulmane. Bref, une série dont la démarche est intéressante, mais qui dresse un constat amer de la situation et sans vraiment convaincre, je crois.
C'est ça, vous avez quand même des idées de lecture et de choses à voir en tout cas.
Surtout pas Game of Thrones.